bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas solennellement à la tradition en vous rappelant ou en vous apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente les petites ou les grandes images qui bougent pour notre plus grand bonheur, parfois aussi celui de nos oreilles depuis la fin du 19e siècle. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, j'ai grand plaisir à évoquer la carrière d'un acteur né en Carpates, quelque part en 1904 et décédé bien après, nous y reviendrons. Un acteur qui avait tout contre lui, un corps trapu, un faciès un peu mou, des yeux exorbités, mais qui devint certainement l'un des plus grands acteurs de complément du cinéma américain après avoir tourné l'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Mais de qui s'agit-il, cher chroniqueur ? De Peter Lorre, L-O-2-R-E, et non pas Lorre. Peter Lorre, donc né le 26 août 1904 dans les Carpates, et qui, après avoir fait un peu de théâtre à Berlin, notamment avec Bertolt Brecht, qui n'était pas encore aussi connu qu'il le devint, eh bien, commença au cinéma en 1929, soit donc à l'âge de 25 ans, qui n'est pas forcément très avancé, mais qu'il est déjà pour un acteur. Et dès 1931, eh bien, Peter Lorre, pour son deuxième film, se trouva la vedette d'un film qui deviendra par la suite l'un des piliers du patrimoine cinématographique mondial, M le Maudit, un film de Fritz Lang, donc tourné en 1922 sur un scénario de Fritz Lang et de Thea von Arbuth, qui était à l'époque son épouse. Alors Fritz Lang, en 1932, eh bien, c'était déjà un cinéaste très connu, car l'homme avait beaucoup tourné au muet. On a vu depuis, puisque le film a été plusieurs fois repris avec des accompagnements musicaux plus ou moins pertinents, le fameux Métropolis, tourné quelque part en 1929 et qui est une sorte d'évocation inoubliable du monde de demain, mais dans une version un peu horrifique. Et Lang avait tourné au muet Les Trois Lumières et un tas d'autres films qui faisaient qu'en 1932, c'était un cinéaste fort connu, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir quelques soucis avec les gens qui, en 1932, eh bien, commençaient à arriver au pouvoir, à savoir le Parti National Socialiste, puisque M. le Maudit devait dans un premier temps s'appeler « Les Assassins sont parmi nous » et que, à l'instigation du Parti nazi, eh bien, il fut débaptisé M. valant pour « Der Mörder », leur meurtrier, le film racontant en effet, de façon très romancée, l'histoire vraie du vampire de Düsseldorf, un dénommé Kürten qui tuait les petits-enfants. Dans ce film, donc, Peter Lorre tenait le rôle principal et le meurtrier avait pour habitude d'attirer les petits-enfants qu'ensuite, eh bien, ma foi, il tuait avec un air sifflé extrait d'un opéra de Edward Grieg intitulé Peer Gynt. Alors, comme il est un peu difficile de trouver des bandes originales de films tournées en 1932, eh bien, on va écouter un extrait de la vraie musique que siffle Peter Lorre dans le film. Donc, un extrait de Peer Gynt, ça s'appelle Dans l'antre du roi de la montagne, et vous allez forcément le reconnaître dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, vous l'avez forcément reconnu, un extrait du Peer Gynt d'Edvard Grieg qui servait à Peter Lorre dans M. le Maudit à attirer les enfants et qui a été ensuite réutilisé, vous l'avez sans doute reconnu aussi, dans le fameux Fantasia de Walt Disney, puisque c'était une version détournée de cette musique qui accompagnait le sketch consacré à l'apprenti sorcier. Mais si, vous vous souvenez de Mickey, cerné par des seaux d'eau qu'il ne parvenait plus à juguler à cause du balai maudit. Bien fait pour lui, Mickey. Mais ce n'est pas à Mickey que nous consacrons notre émission de ce jour, mais à Peter Lorre, donc, qui en 1931, eh bien, instantanément acquis les galons d'une célébrité en Allemagne. Mais hélas, le pauvre n'en profita guère, puisque nous avons évoqué le parti nazi tout à l'heure et dans les années qui suivirent, il devint de plus en plus évident pour Peter Lorre qu'il valait mieux quitter l'Allemagne. Comme le dira plus tard Billy Wilder avec son humour sarcastique, il lui aussi quitta l'Autriche pour rallier les États-Unis. Les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood. Voilà, c'est une formule un peu lapidaire, mais Peter Lorre l'appliqua en tant que tel. Et donc en 1934, déjà on le vit en transit en Grande-Bretagne, où il tourna, excusez du peu, dans la première version de L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Un petit rôle, mais assez marquant. Et puis, eh bien, à partir de 1935-36, il commença aux États-Unis une carrière, alors à la fois comme brillant second rôle dans de grands films et comme premier rôle dans de petits films. Alors, on va juste évoquer les petits films puisqu'on n'aura pas de musique, mais entre 1937 et 1940 à peu près, Peter Lorre joua le rôle d'un espion, d'un détective, pardonnez-moi, japonais. Mais oui, avec un physique un peu passe-partout, vu des États-Unis, l'homme, et avec un savant maquillage, l'homme pouvait passer pour un détective japonais, en l'espèce Mister Moto. Et entre 1937 et eh bien, on eut l'énigmatique Mister Moto, le serment de Monsieur Moto, Monsieur Moto sur le ring, etc. Une petite demi-douzaine de films d'une environ une heure. C'était l'époque où il y avait deux films dans un vrai programme, un film à petit budget d'une heure et puis ensuite le grand film après la pause. Et ma foi, eh bien, ces films revus maintenant et on les trouve très facilement sur Internet, je vous le dis, mes amis, ce sont de petits bijoux. Que c'était filmé, même pour des petits budgets, avec beaucoup de précision et de professionnalisme. Cependant, on va plutôt s'attacher à des grands films auxquels Peter Lorre a apporté son inoubliable présence. Et on va écouter la bande originale d'un film tourné en 1941, l'un des grands films de John Huston, l'un des grands films du film noir américain. Ça s'appelle Le Faucon Maltais. Alors, John Huston lui-même reconnaissait que quand il avait tourné le film, il n'avait absolument rien compris à l'histoire, adaptée évidemment d'Achille Hammett avec son fameux détective Sam Spade, incarné dans ce film par Humphrey Bogart. Et on voyait donc Peter Lorre aux côtés d'une autre grande gueule du cinéma américain, Sidney Greenstreet, un homme qui était le contraire de Peter Lorre, c'est-à-dire très imposant, plutôt en surpoids, dirait-on maintenant. Mais les deux faisaient une sorte de couple un peu improbable, tout à fait jouissif. Et on va écouter donc un petit extrait de la bande originale de ce film, Le Faucon Maltais. La musique est signée de Adolf Deutsch. Tiens, comme c'est bizarre, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, ça se finit un peu abruptement, un extrait de la bande originale du Faucon Maltais, une musique d'Adolf Deutsch pour un film qui était le premier film en tant que réalisateur de John Huston dans les années 30. Eh bien, John Huston avait été un grand scénariste, mais à partir de 1941, eh bien, ça devint tout simplement, si on peut dire, un grand réalisateur. Et ensuite, il enchaînera les chefs-d'œuvre, mais le Faucon Maltais est certainement l'un des films noirs. Vous avez peut-être reconnu au début de cette musique le fameux générique de la Warner Bros., qui était certainement la société de production américaine qui tournait le plus de films policiers ou de films noirs, qui s'est devenu un genre à part entière, avec un acteur iconique en l'espèce, Humphrey Bogart, bien sûr. À ses côtés, il n'y avait pas encore Lorraine Bacall, mais Marie Astor et Peter Lorre donc, faisaient dans ce film un rôle de méchant. Il en fera beaucoup, évidemment, pendant la guerre, puisque, aussi ironique que cela puisse paraître pour un homme qui avait quitté l'Allemagne face à la menace nazie, eh bien, il joua beaucoup d'Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On le vit dans des films aussi improbables que L'Homme invisible contre la Gestapo. Ben oui, ça a existé. Et vous le trouvez sur Internet, je vous conseille. Ça s'appelle Invisible Agent. Je ne veux pas citer de marque, mais c'est facile à trouver et c'est plutôt bienvenu. On le vit aussi dans Cross of Lorraine de Tay Garnett, tourné en 1943. Et dans Passage to Marseille de Michael Turton, tourné en 1944, qui était pour Michael Curtis une façon de renouer avec le succès d'un film dont nous allons écouter un extrait de la bande originale, un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, là encore un grand classique du cinéma mondial auquel nous avons consacré une émission entière, rien que pour lui, de 24 notes secondes, Casablanca, tourné en 1943 par ce même Michael Curtis, donc avec Humphrey Bogart à nouveau et à ses côtés Ingrid Bergman, Casablanca 1943. Tout le monde essaie de fuir l'Europe pour gagner les États-Unis ou la Amérique du Sud, et donc on se presse chez Rick, le cabaret à la mode, où le pianiste n'a plus le droit de jouer une chanson qui est celle qu'il y ait Humphrey Bogart et l'amour de sa vie, Ingrid Bergman. Ingrid, évidemment, qui s'appelle Ilsa dans le film, débarque et s'ensuit certainement l'un des films les plus romantiques de tous les temps, vraiment le film absolument parfait à tout point de vue, même si il connut beaucoup de péripéties de tournage sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Podcaster l'émission consacrée à Casablanca sur notre site. Et aux côtés d'Humphrey Bogart et d'Ingrid Bergman, mais il y avait encore toute cette série de second rôles qui font tout le sel des films américains et d'autres de ces années-là, puisqu'on retrouvait Sidney Greenstreet, on retrouvait bien sûr Peter Lorre, John Qualen, Conrad Veidt, Claude Rains, qui fut l'homme invisible déjà évoqué tout à l'heure. Bref, plein d'acteurs pour un film absolument inoubliable. Des tas de répliques, elles aussi inoubliables. Évidemment, une musique qui ne l'est pas moins. Elle était signée, cette musique, Max Steiner. Et nous allons en écouter un extrait, Casablanca Forever, dans 24 notes secondes. Thank you. La Marseillaise et As Time Goes By, la fameuse chanson extraite de Casablanca, un film de Michael Curtis, mythique absolument, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman dans les rôles principaux et Peter Lorre dans un de ses rôles favoris, un personnage interlope, ni vraiment méchant, ni vraiment gentil, un homme qui se débrouille, quoi, tout simplement, et qui impose à chaque fois, même face à des vedettes aussi constantes que Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, et qui impose son charisme très particulier. J'ai méchamment décrit son physique au départ de cette émission, mais ma foi, il sut en jouer pendant tout au long de sa carrière, et il sut en jouer brillamment, puisque Peter Lorre a une filmographie tout à fait impressionnante et avec quelques chefs-d'œuvre à sa clé. On va encore en écouter la bande originale d'un grand film, un film tourné en 1941, mais qui présenta la particularité de ne sortir sur les écrans qu'en 1944. En effet, ce film, Arsenic et vieille dentelle, un film de Frank Capra, c'était l'adaptation à l'écran d'une pièce, et les producteurs avaient accepté que le film ne sorte pas tant que la pièce se jouerait sur Broadway. Or, manque de chance, elle se joua 3 ans et demi sans discontinuer, preuve d'un grand succès, et de fait un grand succès tout à fait justifié, puisque même transposé à l'écran avec tous les risques liés au fait de passer du théâtre au cinéma, eh bien Arsenic et vieille dentelle, qui raconte l'histoire, un peu de spoiler, de deux charmantes vieilles dames, Abby et Martha Brewster, qui ont pris l'étrange habitude de tuer des gens pour leur bien et de les enterrer dans leur jardin, eh bien sont découvertes par leur neveu alias Cary Grant. Et c'est parti pour presque 2 heures de comédie échevelée dans lesquelles on retrouve Peter Lorre dans le rôle d'un docteur. Un film vraiment à l'américaine avec des dialogues en rafale. Alors on aime ou on n'aime pas, parfois on peut être saoulé, mais quand il y a Cary Grant à l'écran, qui était à la fois un grand acteur dramatique et un comique né, eh bien quand il y a Cary Grant à l'écran, on ne s'ennuie pas. Allez, la musique, eh bien, elle est à nouveau signée Max Steiner, qui signait à peu près un film sur deux ces années-là à Hollywood. Et le film, donc, il est de Frank Capra, je l'ai déjà dit, Arsenic et vieille dentelle dans 24 notes secondes. Thank you. l'impeccable Max Steiner pour un extrait de la partition d'Arsenic et vieille dentelle, un film de Frank Capra sorti en 1944. Je dis l'impeccable Max Steiner parce que l'homme savait, au cours d'un même morceau de 3 minutes, eh bien, basculer du drame au comique et placer quelques effets musicaux. Bref, un grand compositeur, ai-je besoin de rappeler. Allez, on le fait quand même, que Max Steiner, ce fut notamment le compositeur de la monumentale partition d'Autant en emporte le vent, dont les fidèles de 24 notes secondes savent que pour son bienheureux chroniqueur, c'est le plus grand film de tous les temps. Nous étions toujours avec Peter Lorre, qui ne jouait pas, hélas pour nous, dans Autant en emporte le vent, donc il poursuivit ensuite une carrière peut-être un peu moins soutenue dans les années 50, mais de laquelle on pourra retenir en 1951 que Peter Lorre retourna en Allemagne pour y tourner son seul film en tant que réalisateur. Ça s'appelle Un homme perdu, Der Verlorene, en allemand, sauf erreur de ma part. Et ma foi, c'est un film plutôt bienvenu que là encore vous pouvez trouver sur Internet, c'est sûr, puisque plus personne ne s'intéresse commercialement au film des années 50. C'est une chance pour nous. Ensuite, eh bien, on va dire que la carrière de Peter Lorre connaîtra des destins un peu moins glorieux que ceux de Casablanca ou du Faucon Maltais. Les plus jeunes d'entre nous, même ceux qui n'étaient pas nés, se souviendront peut-être qu'il était dans le 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer, tourné en 1954 avec James Mason dans le rôle de capitaine Nemo et Kirk Douglas et une pieuvre en plastique mais absolument gigantesque, le tout sous la houlette des studios Disney. Mais ma foi, c'était plutôt une adaptation distrayante. On le voit aussi parmi bien d'autres dans Le Tour du Monde en 80 jours de Michael Anderson en 1956. Et puis ensuite, eh bien, sa carrière déclina puisqu'elle l'a fini avec quelques films signés de Roger Corman, alors qu'il n'est pas un réalisateur qui a démérité, mais qui était quand même caractéristique pour ses petits budgets et donc ses tout petits contrats pour ses acteurs. On vit Peter Lorre dans L'Empire de la Terreur 62 et dans Le Corbeau d'Edgar Poe, puisque Roger Corman a beaucoup puisé dans l'œuvre d'Edgar Poe avant que l'homme, après avoir tourné Jerry souffre-douleur en 1964, eh bien, ne meure d'une crise cardiaque qui, à mon avis, devait beaucoup au fait qu'il fumait énormément à Hollywood, donc le 23 mars 1964, au terme d'une carrière courte, 60 ans, mais bien remplie pour un homme de cette trempe. Allez, on va terminer sur un dernier grand film, ça s'appelle La Belle de Moscou, Steel Silk Stocking, bas de soie, ce qui est beaucoup plus joli en anglais, mais bon. Un film de Ruben Mamoulian tourné en 1957. Fred Astaire, Sid Charis sont dans les principaux rôles. Le film lui-même est une adaptation musicale d'un autre film tourné en 1939. Un film de Lubitsch qui s'intitulait Ninotchka avec un scénario de Billy Wilder déjà cité. Et rien moins que Greta Garbo dans le rôle principal. Dans le film de Mamoulian, eh bien, c'était Sid Charis qui ô combien reprenait le rôle de Greta Garbo. Peter Lorre y jouait un russe, c'est normal, c'était un étranger, donc il peut jouer n'importe qui, pourvu qu'il ne soit pas américain. Le tout dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.
We were fated to be mated. We were slated to be tied. Me as the burning bridegroom, you as the yearning bride. We were spotted to be knotted and allotted a glorious life. Me as the wonder husband, you as the wonderful wife. So why not have a fling with the wedding ring, trusting everything to the gods above? For we were fated to be mated, and forever and ever in love. We were fated to be mated, we were slated to be tied.